L'aimer l'une nuit, tome 8, chapitre 13. Histoire du roi Behekerd. Behekerd était un roi puissant, redouté de ses voisins et plus encore de ses sujets. À la justice qu'il prétendit rendre à ceux-ci avec promptitude était une véritable injustice. Incapable d'un mûr examen, il confondait l'innocente avec le coupable et ne distinguait pas l'apparence du crime avec le crime lui-même. Ignorant l'art de proportionner les peines aux délits, il punissait les fautes les plus légères comme les plus graves, et ne faisait pas même grâce aux fautes involontaires. Jaloux de tous les droits de la souveraineté, le plus beau de ses droits, celui de pardonner, était le seul dont il ne faisait jamais usage. Un jour que le roi Behekerd était à la chasse, une flèche tirée imprudemment derrière lui l'atteignit et lui emporta l'oreille. Le roi, transporté de fureur, ordonna aussitôt qu'on cherchât et qu'on lui amenât le coupable. C'était un jeune officier qui, ayant vu lui-même l'effet de sa flèche, s'était évanoui et était tombé par terre sans connaissance. On l'apporta dans cet état au pied du roi, qui ordonna qu'on le mît à mort. Le jeune officier, qui avait un peu repris ses esprits, se prosterna devant le roi lorsqu'il entendit prononcer sa sentence et lui dit « Sire, la faute que je viens de commettre est l'effet d'une inadvertance et non un dessein prémédité de ma part. Vous pouvez me pardonner, j'implore votre clémence. Pardonner est la plus belle action qu'un grand roi puisse faire. Celui qui pardonne est souvent récompensé dans ce monde et se ménage un trésor dans l'autre. Conservez-moi la vie, je vous en conjure. Dieu conservera quelque jour la vôtre. » Le roi fut plus étonné de ces dernières paroles, qui semblaient le menacer de quelque grand danger, que touché de la prière du jeune officier, et contre l'attente générale, il lui accorda sa grâce. Le jeune officier, qu'on regardait comme un simple particulier, était bien au-dessus de ce qu'il paraissait être. C'était le fils du roi d'Oman. Quelques traits de vivacité ayant excité contre lui la colère du roi son père, il avait quitté la cour et s'était réfugié près du roi Behekerd, où il avait pris un faux nom et obtenu du service. Quelque temps après l'accident, qui pensa lui coûter la vie, il fut reconnu par un des sujets du roi son père. Celui-ci, ayant été informé de la retraite de son fils, lui écrivit sur le champ pour l'engager à revenir et l'assura qu'il n'avait rien à craindre de son ressentiment. La lettre était conçue dans des termes si tendres et si pressants que le jeune prince, se confiant dans la bonté de son père et cédant à l'amour qu'il avait lui-même pour lui, partit aussitôt. Son espérance ne fut pas trompée. Son père le reçut avec le plus grand transport de joie et lui rendit toute son affection. Le prince d'Oman était depuis quelques années réconcilié avec son père, lorsque le roi Behekerd, ayant envie de se promener sur mer et de prendre le divertissement de la pêche, monta sur un vaisseau accompagné des principaux seigneurs de sa cour. Dès que le vaisseau fut un peu éloigné de la terre, il s'éleva tout à coup une horrible tempête qui l'entraîna en pleine mer et brisa ses mâts. Devenu le jouet des vents et des flots, il fut bientôt mis en pièces et submergé. Le roi Behekerd échappa heureusement au naufrage, se saisit d'une planche et fut jeté, vers la fin du jour, sur un rivage qui lui était inconnu. Quoique fatigué et affaibli par quelques blessures qu'il s'était faites en s'attachant à la planche qu'il avait sauvée, ses forces n'étaient pas encore épuisées. Ayant aperçu de loin une grande ville, il porta ses pas de ce côté. C'était la capitale du royaume d'Oman. Behekerd ne put y arriver que fort tard. Les portes s'étaient fermées et il fut obligé de passer la nuit dans un cimetière. Le lendemain, quelques habitants du voisinage, qui allaient de grand matin à la ville, trouvèrent près de ce cimetière le corps d'un homme qui paraissait avoir été assassiné dans la nuit même. Ils aperçurent en même temps dans le cimetière un étranger vêtu d'habits déchirés et ensanglanté en plusieurs endroits. Ils ne doutèrent pas qu'il ne fût l'assassin, le prirent et le conduirent au roi d'Oman, qui ordonna qu'il fût mis en prison, en attendant qu'on eût reconnu le cadavre et pris d'autres informations. Le roi Behekerd, réfléchissant alors sur toute sa conduite, disait en lui-même « Ce qui m'arrive aujourd'hui est la punition des injustices que j'ai commises. J'ai souvent fait périr des innocents. Je fais perdre la vie à mon tour comme auteur d'un meurtre dont je ne suis pas coupable. » Tandis que, livré à ses réflexions, il se promenait dans la cour de la prison, un oiseau vint se percher vis-à-vis de lui. Berkert, sans y penser, ramassa une pierre et la jeta à l'oiseau. La pierre ne l'atteignit point et passa par-dessus les murs de la prison. Le fils du roi d'Oman jouait par hasard au mail dans une grande place voisine. La pierre retomba sur lui, le blessa à l'oreille et lui fit éprouver une douleur si vive qu'il fut quelque temps sans connaissance. On chercha de quel côté était partie la pierre et on reconnut qu'elle avait été lancée par le nouveau prisonnier, déjà violemment soupçonné d'assassinat. On l'amena devant le jeune prince, qui ordonna de lui trancher la tête. Lorsqu'on lui eut ôté son turban, le jeune prince remarqua qu'il lui manquait une oreille et lui dit « Le châtiment qu'on t'a fait subir en te coupant une oreille prouve que tu as commis plus d'un crime. » Berkert, ayant demandé la permission de se justifier, raconta l'accident qui lui avait fait perdre l'oreille et ajouta qu'il pouvait faire mourir celui qui en était l'auteur, mais qu'il lui avait pardonné. Le prince d'Oman, le regardant alors plus attentivement, le reconnut et s'écria « Vous êtes le roi Berkert !» En même temps, il courut à lui et le serra dans ses bras. On rendit à Berkert les honneurs dus à son rang, on le revêtit d'habits magnifiques et on le fit asseoir à côté du jeune prince qui lui demanda par quelle suite d'événements il était tombé dans une position aussi affreuse et avait été conduit si près de la mort. Berkert lui fit le récit de son naufrage, de la malheureuse rencontre qu'il avait fait passer pour assassin et du hasard qui lui avait fait lancer une pierre par-dessus les murs de sa prison. « Sire, lui dit le jeune prince lorsqu'il eut achevé son histoire, rappelez-vous qu'en sollicitant mon pardon, j'osais vous promettre que Dieu récompenserait un jour votre clémence. L'événement a justifié ma prédiction, et celui à qui vous avez fait grâce de la vie est assez heureux pour pouvoir lui-même conserver aujourd'hui la vôtre. » Le jeune prince le conduisit ensuite auprès du roi son père, auquel il apprit la manière dont il venait de reconnaître et de sauver le roi Berkert, et celle dont ce roi lui avait autrefois fait grâce de la vie. Les deux souverains s'embrassèrent et se témoignèrent réciproquement leur reconnaissance. Berkert, au bout de quelques jours, prit congé du roi d'Oman et fut reconduit dans ses états par une escorte nombreuse et magnifique. Le danger que ce prince avait couru lui ouvrit les yeux et le fit entièrement changer de conduite. Il se montra lent à punir, porté à pardonner, et fut par la suite autant aimé de ses sujets qu'il en avait été jusque-là haï et détesté. Par cet exemple, ajouta le jeune intendant, vous voyez, ô roi, qu'il n'y a rien de plus excellent que la clémence. Un seul acte de clémence sauva la vie au roi Berkert, amollit son cœur, y fit germer toutes les vertus et le rendit le modèle des souverains. À cette part, ébranlé par l'histoire que venait de raconter le jeune homme, et cédant à un reste d'attachement qu'il conservait encore pour lui, fit signe de le reconduire en prison. Le huitième jour, les deux vizirs s'assemblèrent et tinrent conseil ensemble contre le jeune homme. « Quels moyens emploierons-nous, dit l'un d'eux, pour nous défaire de ce vil esclave, de cet indigne rival qui, par ses discours, rend inutiles nos artifices? S'il ne périt pas, nous devons craindre de périr nous-mêmes. Allons donc tous ensemble trouver le roi et réunissons nos efforts pour le décider à ordonner la mort du coupable. » Cet avis fut approuvé de toute l'assemblée. Les deux vizirs se rendirent chez le roi, se prosternèrent à ses pieds, et l'un d'eux prit ainsi la parole. « Sire, ce jeune homme vous flatte et vous séduit par la magie de ses discours. Il profite de la complaisance avec laquelle vous prêtez l'oreille à ses vaines sentences et triomphe du succès de ses ruses. Que ne pouvez-vous entendre plus tôt les discours qu'on tient autour de nous, les murmures du peuple, ses propos séditieux et injurieux à l'honneur de votre majesté? Peut-être alors vous feriez plus attention aux conseils que nous dicte la prudence et l'attachement que nous avons pour vous. Mais quelque inutile qu'aient été jusqu'à présent nos représentations, nous ne devons pas pour cela renoncer à notre devoir et cesser de vous faire entendre la vérité. Réunis ici devant vous, tous les 10, nous vous attestons encore que ce jeune homme est coupable et ne s'est introduit dans votre appartement que pour vous déshonorer. Si vous ne voulez pas le faire périr, chassez-le au moins de votre empire. On s'étonnera de votre indulgence et elle aura peut-être des suites fâcheuses, mais au moins, la présence de l'infâme ne souillera plus ses lieux et ne sera plus un sujet de honte et de scandale. » Ce discours enflamma le courroux du roi, qui donna ordre d'aller chercher le jeune homme. Lorsqu'il parut, les deux vizirs jetèrent tous ensemble un cri contre lui et dirent « Perfide, Tu crois éviter la mort et tromper le roi par tes discours adroits. Mais comment peux-tu te flatter d'obtenir le pardon d'un crime qui blesse les lois, les mœurs, la religion et compromet à la fois la gloire du monarque et la sûreté de son empire? Le roi ayant ordonné qu'on fît venir l'exécuteur, tous les vizirs offrirent leurs bras et se disputèrent l'honneur de servir de bourreau. Sire, dit alors le jeune homme en regardant avec mépris les vizirs, la rage et l'acharnement de vos vizirs contre moi découvrent évidemment la haine et la jalousie qui les animent. Ils veulent se débarrasser de moi pour pouvoir, à leur gré, disposer comme autrefois de vos trésors. Toi seul les accuses, dit le roi en l'interrompant, tandis qu'ils déposent tous les 10 contre toi. Comment peuvent-ils, dit le jeune homme, déposer ce qu'ils n'ont point vu? Cette circonstance montre de plus en plus leur malignité, et si vous cédez aux efforts conjurés de leur haine, vous éprouverez infailliblement les regrets qu'éprouva le roi Ilansha lorsqu'il eut reconnu la perfidie et la scélératesse de ses 3 vizirs. Voyons, dit Adzarbart avec vivacité, de quelle manière le roi Ilansha fut trompé par ses vizirs.